Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani
wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Les inégalités socio-économiques au Mali, quel impact sur le développement, sur le thème du Grand Dialogue de ce soir. Et comme invité, nous avons le plaisir de recevoir Boukari Boudogo, il est chercheur au GRIT, qui est le groupe de recherche en économie appliquée et théorique. Modibo Mbaw-Makalu, il est économiste. Kadari Traoré, il est directeur général du Centre d'études pour le développement en Afrique, CEDA, et enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission, présentée par Ibrahim Aran Diallo.
Le Grand Dialogue.
Alors, Monsieur Makalu, on sait que dans une société politique, il y a vraiment plusieurs types d'inégalités. Alors, ce soir, nous allons tenter de mettre l'accent sur les inégalités économiques en essayant de voir l'impact ou le lien avec, justement, le développement. Alors, maintenant, pour mieux camper le décor, que peut-on comprendre, justement, par inégalité économique ?
Mais vous savez, dans toute société, il y a une population qui est répartie sur un territoire et qui a différents revenus. Mais si nous parlons d'inégalité, généralement, la meilleure mesure pour évaluer un peu cela, c'est les indices de pauvreté, les indicateurs de pauvreté. Et malheureusement, la pauvreté elle-même, elle est monétaire et non monétaire, elle est matérielle et immatérielle. Mais ce qui est sûr, c'est une insuffisance de revenus, inadéquation des conditions de vie et une insuffisance des ressources matérielles. Quelqu'un qui ne peut pas se loger, qui ne peut pas se vêtir et qui a des difficultés pour se nourrir et se soigner aussi. Et aussi accéder à un enseignement de qualité. Mais la Banque mondiale estime que la pauvreté absolue se mesure à 1,9, c'est-à-dire 1,90 $ par jour, comme le seuil de pauvreté absolue. Donc c'est en dessous de cela que quelqu'un est considéré comme extrêmement pauvre.
Ça, c'est dans une localité, un pays donné,
ça, Non, c'est dans le monde entier et ils estiment ça par ce qu'on appelle le PPA, la parité par le pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'ils ont un système qui permet d'évaluer cela en fonction des pouvoirs d'achat des pays, de sorte que parce que 1,90 $ aux États-Unis et 1,90 $ au Mali ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, il faut un peu de pondération par rapport à tout ça.
Absolument. Alors, Monsieur Boukoudougou, excusez-moi. Alors, comment vous analysez, comment vous définissez justement ces inégalités économiques-là? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce que Monsieur Makalu a dit?
Ok. Je crois qu'en plus de ce que le doyen Makalu a dit, les inégalités peuvent s'observer sur tous les plans. Comme vous le dites, vous avez parlé d'inégalités économiques, vous avez les inégalités sociales. Vous pouvez également le regarder au sein d'un groupe donné ou au sein d'un État. Vous avez des inégalités entre les riches au Mali et les pauvres au Mali. Vous avez des inégalités entre le Mali et d'autres pays, par exemple les pays développés. Donc, les inégalités se rencontrent un peu partout. Et le rapport mondial, même sur les inégalités, montre qu'il y a une augmentation des inégalités à l'échelle du monde et dans toutes les régions du monde. Donc, on peut dire globalement que l'inégalité, en fait, c'est un fait où il y a une différence d'accès au savoir, au pouvoir et également à l'avoir. Ça, c'est les trois grands domaines qu'on peut définir sur lesquels les inégalités portent. Les avoirs, c'est bien sûr le revenu, c'est le patrimoine, c'est autre chose. Le savoir, c'est l'accès à l'éducation, par exemple. C'est l'accès à un emploi décent, par exemple. Et vous avez le pouvoir, donc on a des différences de pouvoir accéder au pouvoir. Donc ça, c'est des inégalités qui sont observées de plus en plus à travers le monde.
Alors, M. Traoré, comment vous analysez justement ces questions d'inégalité, notamment économique?
Merci beaucoup. À la suite de mes aînés, je vais, à votre permission, m'attarder un peu sur le concept d'inégalité. En rappelant que les sociétés modernes contemporaines sont structurées autour de groupes sociaux et qui sont caractérisés par des différences. Et ce sont ces différences-là qui engendrent de nombreuses inégalités. Et les différences sociales ne sont pas forcément source d'inégalités, il faut le préciser. Une différence d'abord, c'est une caractéristique qui permet de distinguer un individu d'un autre, un groupe d'individus d'un autre, sans que cela se traduise par une hiérarchie entre les deux. L'inégalité alors s'apprécie à partir d'une différence qui entraîne une hiérarchisation des rapports, qui se traduit par un désavantage, un déficit d'accès aux ressources matérielles, aux ressources politiques, aux ressources symboliques valorisées par une société donnée à un moment donné de son évolution. Il y a donc inégalité lorsque la répartition de ces ressources-là, socialement valorisées, n'est pas uniforme, d'une part, mais qu'il y a des groupes qui sont favorisés, des groupes qui sont avantagés par rapport aux autres. Et à ce niveau-là, les contradictions amenées par cette divergence dans l'accès aux ressources partagées et partageables au sein des groupes sociaux créent souvent des tensions. Et ces tensions se traduisent par les manifestations. Elles peuvent être économiques, elles peuvent être sociales, elles peuvent être culturelles, elles peuvent être politiques, ainsi de suite. Et c'est en ce moment qu'on parle d'inégalité à proprement parler, de mon point de vue, pour compléter les autres là-dessus.
Merci, M. Traoré. Alors, après ces explications conceptuelles, hein, justement, par rapport aux inégalités, alors, est-ce que, M. Makalou, on peut dire aujourd'hui que les inégalités constituent une réalité au niveau du Mali?
Mais non seulement au niveau du Mali, mais au niveau du monde, parce que vous n'êtes pas sans savoir que chaque année, il y a Oxfam International, une ONG internationale, qui publie la répartition des richesses dans le monde. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de milliardaires, c'est-à-dire que la richesse est en train de se concentrer au sommet de la pyramide dans le monde. Donc, et dans nos pays, c'est à peu près la même chose. Si vous prenez le cadre stratégique de relance économique et de développement durable, qui est sur la période 2019-2023, c'est notre référentiel en matière de politique et stratégie de développement. Et donc, ce cadre référentiel nous explique que l'extrême pauvreté, par exemple, au Mali, est passée de 43,4% en 2017 à 41,3% en 2019. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au Mali, je le répète encore, nous avons, depuis 1994, pratiquement un peu plus de 25 ans, nous avons 5% de taux moyen réel de croissance économique. En réalité, quand on parle de croissance, les économistes parlent tout le temps de croissance, croissance économique. C'est la croissance économique, c'est-à-dire la croissance du produit intérieur brut qui concerne la consommation des ménages, les investissements, les dépenses publiques, les exportations moins les importations, qui donnent la production nationale. Donc ça, c'est votre offre globale dans votre économie. C'est ce que vous produisez, l'ensemble des biens et des services que vous produisez dans votre économie. Et c'est cette production multipliée par sa valeur qui donne la richesse nationale. Et c'est cette richesse nationale qui peut déterminer si on peut améliorer les conditions de vie des populations de manière équitable. Et ça, cela revient à un rôle dépendant des pays, de l'État, centralisateur, régulateur, mais aussi modérateur de l'activité globale. Parce qu'à travers les politiques sociales, quand il y a cette richesse qui est produite, il y a une ponction, c'est-à-dire en tout cas l'État détermine ses ressources et ses charges et détermine quelles sont les populations qu'elle doit appuyer par une politique sociale adéquate. Donc quand vous avez ce PIB, cette richesse nationale, la manière dont ce PIB est reparti au sein de la population, c'est ça qui va déterminer un peu l'équité au sein de la population.
Alors, Monsieur Bouboudogo, je rappelle que vous avez organisé tout récemment une rencontre scientifique, hein, alors notamment les journées du savoir, dont le thème portait justement sur les inégalités. Alors, qu'est-ce qui a justifié ce choix, les inégalités?
En fait, le choix du thème inégalité, polarisation et exclusion sociale est venu d'un constat que je crois le doyen Makalou venait de faire tout de suite. On a de plus en plus d'inégalités à travers le monde, que ce soit à travers le monde, que ce soit...
Comment se manifeste le cas du Mali, par exemple?
Le cas du Mali, un exemple, un chiffre que je vous donne, vous avez 10% des plus pauvres au Mali qui ne gagnent pas plus d'1% du revenu total du Mali. c'est que vous avez les plus pauvres, 10% des plus pauvres gagnent un peu moins de 1% du revenu total. Donc, vous voyez le problème. Vous avez en Afrique de l'Ouest, comme tu le disais, Makalou le disait, cette inégalité, elle se rencontre partout. Vous avez en Afrique de l'Ouest, un chiffre pour vous convaincre, vous avez le top 1% des plus riches en Afrique de l'Ouest gagnent plus que la totalité des Ouest-Africains. Vous voyez un peu l'écart qui se cause. Et cela, ça, c'est ici au Mali aussi. Et donc, le thème de inégalité, polarisation, inclusion sociale était le thème des JDS, des 3e édition des JDS, les Journées du Savoir, que nous organisons au sein du groupe tous les 2 ans. Et donc, cette thématique est née du constat que de plus en plus il y a des inégalités, que les gens, les riches continuent à être plus riches, que les pauvres s'appauvrissent et que ces inégalités ont des conséquences sur la vie économique. Parce qu'une des conséquences, si on aborde, peut être par exemple le freinage à la croissance économique. Parce que la consommation, c'est les pauvres et la classe moyenne qui consomment plus. Si eux, ils n'ont pas de revenu, si le revenu est accumulé au sommet, eux, ils ne consomment pas beaucoup. En tout cas, pas les biens de consommation que toi et moi, on est en train d'acheter. Donc, il fait en sorte que l'économie ne va pas suffisamment bouger. Et donc, s'il n'y a pas trop de croissance, donc, comme disait Makalou, le taux de croissance ne va pas augmenter rapidement. Et donc, le gâteau qu'on va partager entre nous, qui est le PIB, ne pourra pas être dispatché égalitairement entre tous les intervenants. Voilà à peu près les idées qui nous ont conduit à organiser cette journée sous ce thème-là. Et donc, à faire venir des chercheurs de tous les continents, américains, européens et africains. Il y avait Thomas Piketty, qui est un économiste français qui est venu avec nous rehausser l'éclat de ces journées-là. Et donc l'idée, c'était vraiment de démocratiser le savoir, mettre sur la place publique des papiers scientifiques sur les inégalités qui sont constatées à travers le monde et sur les types d'interventions publiques que l'État pouvait faire pour atténuer, ne serait-ce que peu.
D'accord, on va revenir au rôle et à la responsabilité justement de l'État. Avant cela, je donne la parole à monsieur Traoré. Alors, on est d'accord ici sur ce plateau justement qu'il y a des inégalités quand même à travers le monde, notamment au niveau du Mali également. Alors, comment peut-on établir un lien entre ces inégalités économiques-là justement et le développement? On sait que vous faites beaucoup d'études quand même sur les questions de développement au niveau de votre centre.
Et merci beaucoup. Je pense que les inégalités, dans leur forme la plus achevée, se traduisent par la construction de privilèges. La construction de privilèges au profit d'un plus petit nombre et au détriment du plus grand nombre. Et les exemples sont monnaie courante à travers le monde. Thomas Piketty, dans son célèbre ouvrage, expliquait que 350 millions de personnes les plus pauvres de la planète équivalent aux 85 personnes les plus riches du monde. Et donc, vous voyez un peu la proportion déjà à l'échelle planétaire. Et lorsqu'on ramène cela au niveau malien, tout court, les inégalités constituent un énorme frein à la promotion, à la planification et à la progression vers le développement. Le développement n'est pas envisageable. Tant qu'on n'indique pas, ce n'est pas possible d'indiquer à l'échelle actuelle des réflexions et de ceux qui ont travaillé là-dessus. Il y a énormément de théories qui ont été développées sur les inégalités. Ça a commencé depuis les Jean-Jacques Rousseau, ça a commencé avec les Max Weber, etc., et Karl Marx. Encore, si on amène ça à notre échelle, on ne peut pas vouloir endiguer les inégalités sans commencer par accepter de poser le problème des inégalités, de le regarder en face et de l'affronter.
Vous estimez qu'à l'heure actuelle, ce problème n'est pas assez exposé?
De mon point de vue, il n'est pas assez fait. Il y a des initiatives qu'il faut saluer. Le frère Makalou en parlait tout de suite. Je pense que c'est ce genre d'initiatives qui doivent être portées à l'échelle et portées par les politiques publiques. De mon point de vue, les inégalités ne pourraient jamais être adressées de façon efficace tant qu'il n'y a pas une option stratégique et politique optimale pour que les décideurs politiques s'en servent et qu'on amène le débat à l'échelle de l'ensemble des parties prenantes de la nation pour le développer. Et du coup, le développement n'est pas envisageable tant qu'on n'a pas accepté de passer ce cap-là. Et ce cap, je pense qu'on est loin du compte hein, à ce niveau-là.
Alors, qui doit porter ce combat-là ? Les chercheurs ou bien l'État ?
Je pense que les chercheurs s'essayent déjà hein, à le faire. L'exemple qui a été donné par le GRET est suffisamment évocateur là-dessus. Il y a plein d'autres travaux hein, qui ont été développés là-dessus. Il y a Mamadou Djarafa Diallo qui a fait un texte qui est très évocateur là-dessus. Déjà, du point de vue des analystes, un certain effort est en train d'être fait. Je pense qu'au plus haut niveau, le travail doit être entrepris pour que les décideurs politiques acceptent que ce phénomène mérite d'être regardé, ce phénomène mérite d'être réfléchi et que le débat mérite d'être posé à une autre dimension. Et donc le véritable porteur, quoi qu'on fasse, les initiatives individuelles, collectives, endogènes ont leur mérite, mais le porteur, le véritable porteur, c'est les décideurs politiques. Et de mon point de vue, on est loin du compte.
Alors, M. Makalou, je rappelle que vous avez été quand même conseiller hein, au niveau de la présidence pendant plusieurs années. Ouais, alors M. Traoré estime qu'effectivement, les décideurs ne portent pas assez d'attention justement par rapport à ces questions d'inégalité-là. Alors, est-ce que vous confirmez ça, vous qui avez été quand même très proche des décideurs?
Oui, bon, je partage parfaitement ce que M. Boudreau et M. Traoré ont dit. Mais vous savez, moi, ma petite expérience, parce que j'ai quand même travaillé avec un certain niveau, j'ai commencé à travailler avec un professeur américain, un professeur d'université américain, qui s'appelait le professeur Elliot Berg. Il m'a pris sous son aile quand je suis sorti de l'université en 87, en 88, aux États-Unis. Et il est le principal auteur d'un ouvrage célèbre qui s'appelle « Développement de la Banque mondiale », qui s'appelait « Développement accéléré au sud du Sahara ». En 1988, je travaillais pour M. Berg, Elliot Berg. Et vous savez, le leadership est très important en matière de développement. Mais ce que j'ai appris avec M. Berg, par exemple, j'ai contribué, moi, à élaborer ce qu'on appelait le PREF, Programme de redressement économique et financier de la Mauritanie. Qu'est-ce que le gouvernement mauritanien a fait ? Ils ont pris leur cadre, leur négociateur. Ils ont élaboré de manière endogène leurs idées, ils ont mis en place, ils ont suggéré ce qu'ils allaient faire. En tout cas, ils avaient un plan, une stratégie de développement. Et ils ont pris ce grand professeur pour les épauler dans la formulation. Parce qu'il était très familier, parce que c'était l'un des principaux collaborateurs de la Banque mondiale. Et ce n'est pas lui qui l'a écrit, mais ce sont les Mauritaniens qui l'ont écrit, mais lui, il les a épaulés. Pour raccourcir, c'est uniquement pour dire, avec autant de think tanks au Mali, de jeunes chercheurs ici, l'université, la société civile, en quoi elle contribue au débat ? Je vois les gens se renfermer à longueur de journée en vase clos dans des salles fermées.
Donc vous voulez dire autant l'État ne fait pas grand-chose, autant les universités aussi font moins d'initiatives.
Hein. Aux États-Unis,
si je vous comprends bien.
Aux États-Unis. Moi, j'ai travaillé sur un programme ici qui s'appelle le Millennium Challenge Account.
Un programme
inspiré par Condoleezza Rice. Sous George W. Bush.
Absolument.
Est-ce que vous savez que ce programme a été conçu par un think tank américain et proposé au gouvernement américain ? Et vous pensez que nous avons plus de ressources humaines que le gouvernement américain ? Il faut mettre à contribution le savoir national. Vous allez voir, nos dirigeants, ils sont prêts à aller chercher le premier chercheur à l'extérieur, mais les chercheurs nationaux, personne ne les consultera, alors que c'est eux qui connaissent les problèmes. Donc ce que je veux dire, il faut que nous fassions attention. Moi, mon expérience, parce que depuis 2002, j'ai participé un peu aux politiques et stratégies de développement du Mali, évitons de faire des projets standards, copier-coller qu'on fait dans un pays et dans un autre. Essayons quand même d'augmenter la réflexion endogène au sein de notre pays et que nos chercheurs et nos propres ressources humaines puissent participer au débat national.
Alors, M. Bougoudogo, vous venez d'écouter justement M. Mohamed Makalou. Il estime que, voilà, c'est vrai que le savoir interne n'est pas assez valorisé. Hein, et vous continuez à produire. Hein, comment voyez-vous ? Quel est votre espoir ? Quel est l'espoir sur lequel vous basez justement pour faire ce travail-là ?
en fait, on est comme sur un terrain de sacerdoce, mais c'est vrai, il y a quelques années qu'il y avait un fossé entre les décideurs et les politiques, mais je crois de plus en plus, les politiques sont en train d'écouter les chercheurs. L'exemple de, c'est vrai, on attend encore beaucoup plus, mais de plus en plus, je crois, au Mali, on commence à consulter et le savoir local. Par exemple, le CRED dont le doyen Makalou parlait a été écrit, élaboré par un groupe de chercheurs nationaux qui est un peu la référence au niveau national, sans être l'avocat de l'État, bien sûr. Pour nos JDS, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique était là à l'ouverture. Et une de ses chargées de mission était là à la clôture. Donc, de plus en plus, on attend beaucoup d'eux, mais je crois de plus en plus, ils commencent à occuper ces terrains-là qui étaient assez vieux. Mais je crois que ça va aller si on continue à persister à mettre sur la place publique les résultats de recherche et puis les informations avec le pouvoir public. Je crois que c'est deux côtés. Autant le pouvoir ne fait pas beaucoup de pas, autant les chercheurs restent également un peu dans leur tour. Je crois que les deux doivent pouvoir faire un pas l'un vers l'autre pour qu'il y ait cette complicité entre les deux et que les politiques publiques soient beaucoup plus basées sur les évidences, qu'on appelle les évidences issues des think tanks nationaux et des centres de recherche au niveau national.
Alors, M. Traoré, je rappelle que vous êtes enseignant à l'Université des sciences juridiques et politiques. Alors, est-ce que, au regard de... Lorsqu'on essaie de voir les textes, est-ce qu'on est la réalité, justement, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence, hein? Dans la pratique, on sait quand même que, notamment la Constitution malienne, dans son article 2, parle de l'égalité entre tous les Maliens. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre les textes et la réalité?
Merci beaucoup. Mais avant d'aborder la question de l'articulation texte et pratique, je voudrais juste revenir un instant sur la question du dialogue entre politique et science. Je pense que au stade actuel du débat, on est loin du compte, parce que si on regarde bien les expériences de production du savoir qui ont été tentées au Mali et dont le résultat a été mis à disposition des décideurs politiques, c'est des expériences qui ont été soutenues, initiées de l'extérieur par des partenaires, hein, techniques et financiers, soit la Banque mondiale, soit les organismes de développement. Je n'ai pas convenance, j'ai pas en tête une réflexion d'envergure côté production du savoir, qui a été initié par les décideurs politiques maliens, dont les résultats ont été directement versés sans soutien d'un partenaire quelconque. Je veux simplement dire que les initiatives de la production du savoir doivent être endogènes d'abord. Il faut qu'on accepte de regarder notre société, de réfléchir sur notre société par nous-mêmes, par nos propres moyens et par nos propres lunettes.
Alors aujourd'hui, ce travail-là n'est pas fait.
Je pense qu'on est loin du compte.
Alors où est-ce qu'on peut situer la responsabilité?
Je pense que la responsabilité, c'est d'abord du point de vue de ce que j'avais appelé le portage politique. Parce que même pour réformer les textes législatifs réglementaires dont je vais parler tout de suite, c'est des partenaires qui soutiennent derrière. Pour réformer nos politiques publiques, c'est des initiatives qui viennent de l'extérieur, pour s'arrimer sur les ordres communautaires, internationaux et mondiaux. Je pense qu'on doit dépasser ce cap-là pour produire dans d'autres sociétés. Les gens sont dans la prospective sur 50 ans.
Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui les conditions même sont créées au regard du système universitaire malien, le fonctionnement de l'université du Mali? Est-ce que les conditions sont créées pour que ce savoir endogène là puisse être produit et valorisé?
Je pense que les brides sont posées, hein, les jalons sont posés. Le mérite, c'est d'abord d'avoir réalisé l'université. L'un des mérites, c'est d'avoir essayé de former des Maliens, et ça c'est aussi, il faut le reconnaître, De pouvoir former des Maliens qui sont capables de former d'autres Maliens. De moins en moins, c'est la ruée, hein, vers les universités extérieures maintenant. Beaucoup de Maliens sont capables de se former au Mali et de pouvoir produire de la connaissance au Mali. Donc ça, c'est déjà le premier levier. Maintenant, il faut qu'on arrive à associer à cette réflexion-là d'envergure, arriver à mettre la connexion entre les producteurs du savoir et ceux qui ont la responsabilité d'utiliser les résultats du savoir pour transformer notre société. Je voulais vraiment insister là-dessus. Je ne suis pas sûr que...
On va vous revenir. Monsieur Bougoudogo, il y a certains observateurs qui mettent l'accent quand même sur le libéralisme comme facteur favorisant justement ces inégalités économiques-là. Est-ce que vous comprenez ce point de vue?
Oui, je comprends. Parce que dans la littérature, de façon globale, quand on parle des causes des inégalités, on pense que le capitalisme, donc l'inégale répartition du capital entre les différentes couches de la population, sont une des causes. On pense que la concentration également du capital entre les mains d'une portion de plus en plus restreinte de la population peut aussi être une des causes. Et de façon globale, ce qui est vraiment, comme on appelle ça dans la littérature, que vous retrouvez comme une cause favorisant les inégalités, c'est les fractures sociales qui sont basées sur des formes particulières de hiérarchisation sociale qui va vous donner par exemple des avantages et qui va peut-être me donner des désavantages. Donc c'est vraiment l'organisation sociale, le capitalisme à mon avis, a été un facteur favorisant de ces inégalités-là. Mm-hmm. En tout cas, beaucoup de littérature.
Alors, M. Makalou, Bourdogo est d'accord que le libéralisme, le capitalisme, constitue effectivement une des raisons pouvant expliquer ces inégalités-là. Est-ce que finalement, l'option politique dans nos États a un grand sens quand on sait que le parti au pouvoir, quand même, est membre de l'international socialiste? Est-ce que les options politiques sont une réalité dans nos pays-là?
Mais vous savez, quel que soit le régime, l'option politique du parti politique au pouvoir, nous avons un plan et un programme de développement qui est fait par les Maliens, par les cadres maliens, en tout cas qui sert de référentiel pour les politiques et stratégies de développement. De toute façon, je pense que ce n'est pas très approprié de parler de socialistes et de libéraux au Mali. Je pense que ça revient plus ou moins à la même chose. En tout cas, c'est mon expérience. Mais ce que je veux dire, si vous voulez constater la réalité des choses, il faut voir d'abord l'indice de développement humain. En 2019, le Mali était 182e sur 188 pays classés. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on a un pays d'abord où il y a une faible... un indice de développement faible, c'est-à-dire au niveau du développement social, santé, éducation, protection sociale et les couches les plus vulnérables, fragilisées. Et cela, ce sont les femmes, les jeunes et les enfants. Donc 182e sur 188. C'est vraiment le résultat, en fait, que nous n'ayons pas pu faire en sorte que notre croissance ces 25 dernières années soit équitablement répartie au sein de la population. Mais il y a une explication. En fait, la croissance économique au Mali, qui conduit à la richesse nationale, est tirée par les recettes d'exportation des industries extractives, en l'occurrence l'or. C'est l'or qui tire la croissance. Donc quand vous voyez nos chiffres macroéconomiques, vous voyez 5% de croissance réelle sur 25 ans. Alors que dans le secteur aurifère, ça appartient aux multinationales et les recettes appartiennent aux multinationales, pas à l'État, même si ça apparaît dans les chiffres, dans les statistiques macroéconomiques de l'État. Et l'or constitue environ 70% de nos recettes d'exportation, plus de 70%. Alors que c'est le coton qui pourrait tirer la croissance dans notre pays. Et quiconque aurait fait un tour en zone cotonnière lorsque les prix sont corrects, vous verrez que le niveau de vie des personnes qui sont dans cette zone augmente. Parce que le revenu que le cotonculteur obtient des marchés internationaux va dans sa poche. Et ça lui permet de faire des céréales d'abord, de faire des centres de santé, de faire des écoles, de faire de l'élevage, de vacciner leurs enfants, de les scolariser. Et moi, mon constat personnel ces 20 dernières années, c'est que c'est dans cette zone cotonnière et dans la vallée du fleuve que vous avez quand même assez de un niveau de vie assez élevé au sein de la population. Mais aussi, tenez-vous bien, où sont concentrés 90% des pauvres au Mali ? C'est dans les zones sud du Mali, c'est à part c'est Sikasso, c'est Ségou, où vous avez une forte concentration démographique. Et ce sont les zones les plus pauvres au Mali.
Alors, Monsieur Boukoudougo, avant de venir à Monsieur Traoré, Monsieur Magolo a mis l'accent sur un rang quand même, 188e sur 182e hein, sur 190. Hein.
Voilà, 188.
88, donc le c'est pas quand même assez fameux cette position. Alors, nous sommes le Mali, c'est le garde la première position justement en termes de production du coton. Et troisième, hein, dans la production d'or justement. Alors, que doit-on faire? Qu'est-ce que le Mali doit faire pour qu'elle puisse tirer son épingle du jeu?
Je crois que le doyen, sous réserve de ce que le doyen Magalou disait, en fait, notre croissance de façon globale, c'est vrai, c'est autour de 5% depuis quelques années, mais notre croissance est tirée par des secteurs qui n'appartiennent pas aux Maliens. L'industrie aurifère, le maximum de capital est détenu par les étrangers. Le coton qui rapporte bon an mal an quelques milliards à des cotonculteurs est un secteur à problème. Et l'autre secteur qui tire notre croissance, c'est le secteur de la téléphonie. Vous n'êtes pas sans savoir que tous ces secteurs-là sont détenus par des capitaux étrangers. Ouais. Et donc, en fait, notre économie est extravertie. Donc, cette croissance-là qu'on est en train de montrer, qu'on est en train de miroiter, ne profite malheureusement pas aux locaux parce qu'on a une économie qui est extravertie, qui bénéficie plus à des capitaux étrangers qu'à des locaux. Le taux de croissance positif entraîne très peu de création d'emplois, qui est gage d'une certaine sérénité sur le plan social. Vous avez très peu d'industries. Notre problème est lié à la désindustrialisation. De 80 à maintenant, on est presque dans une phase de désindustrialisation.
Justement, il y a certains observateurs qui mettent l'accent sur les politiques d'ajustement structurel des années 94 qui auraient mis en mal justement notre économie.
C'est vrai. C'est vrai que les programmes d'ajustement, à un moment donné, avaient été dépanassés par les partenaires techniques, les institutions de Bretton Woods. Et donc, ces programmes ont donc entraîné le retrait de l'État des sociétés entreprises d'État qui étaient pourvoyeurs d'emplois pour les locaux. Et donc, l'idée qui était derrière, c'était donc de faire en sorte que le secteur privé puisse prendre un peu le relais après le désengagement de l'État. Mais malheureusement, le privé n'a pas pu jouer ce rôle-là. Et donc, ça a créé une grosse vague de chômeurs. Ça a créé également, je ne sais pas si le lien est direct, mais vous avez assisté également à une grande informalisation de l'économie de notre pays. Si vous voyez dans notre pays, toutes les statistiques disent que les plus forts emplois se retrouvent dans le secteur informel. Donc, le secteur formel occupe très peu d'actifs. Et donc, c'est une des conséquences des programmes d'ajustement structurel des années 80 jusqu'aux années 90.
D'accord. Alors, M. Traoré, comment peut-on établir un lien, justement, entre ces politiques d'ajustement structurel des années 94 et les difficultés économiques auxquelles les pays font face?
Bon, je pense que si les experts sur cette question et sur les questions économiques ont suffisamment expliqué ces dimensions-là. Mais je dis, il y a une donnée constante qui n'est pas suffisamment regardée de mon point de vue sur la question d'inégalité, la proportion économie et développement. Je pense que les dimensions sociales doivent être encore plus interrogées avec plus de rigueur de mon point de vue. Parce que si je prends l'exemple, comment expliquer qu'une fille sur 10 au Mali achève sa scolarité seulement au niveau secondaire? Ça, c'est des données qui ont été avérées. Il n'y a qu'une fille sur 10, une fille malienne sur 10 qui arrive à achever. Ça, c'est au-delà des questions de capital. L'autre aspect, il a été démontré, notamment dans le texte de Mamadou Djarafa Diallo dont je parlais tout de suite, que sur les 1000 Maliens qui sont déclarés, qui sont considérés comme pauvres, 882 sont du secteur agricole, sont des agriculteurs. Et donc ça aborde aussi une autre dimension. Et je pense que ça corrobore les hypothèses qui ont été évoquées par Makalou et par Bourgogo sur la question du capital et son incidence sur le développement. C'est vrai qu'on engrange du capital dans les ressources extractives, mais ça profite à qui? Et manifestement, la preuve est là. Les régions les plus agricoles, ça a été évoqué, Sikasso et autres, c'est là où il y a la pauvreté. Donc ça veut dire qu'il y a une très mauvaise redistribution des capitaux, une très mauvaise redistribution des ressources qu'il faut accepter de regarder et de trouver des réponses satisfaisantes. C'est vrai que les conséquences des programmes d'ajustement structurel ont suffisamment impacté le développement après. Ça a été suffisamment évoqué par beaucoup d'analystes bien avant nous. Mais je pense que l'heure est venue maintenant de sortir de ce péché originel-là, comme on le dit, parce que ce n'est pas une tare atavique, on n'est pas né avec. Ça a été une conjoncture d'un moment donné, à un moment donné de l'évolution de notre société. Je pense qu'on a les ressources humaines, intellectuelles, morales et sociales pour rebondir. Et chaque société qui n'est pas capable de rebondir après les épreuves qu'il a traversées est encore une société qui est en construction. Je pense qu'il est temps qu'on s'inspire des conséquences qui ont été générées par les programmes d'ajustement structurel et qu'on essaie de rebondir. C'est vrai, il y a eu des tentatives plus ou moins abouties, mais il est temps de réfléchir à comment on peut mieux faire en rapprochant les lignes, comme on le dit souvent, par rapport aux inégalités que traverse notre société.
D'accord. Alors, M. Magalou, Traoré a mis l'accent sur une autre dimension, les inégalités sociales. Finalement, ce sont les inégalités sociales qui déterminent les inégalités économiques ou bien c'est l'inverse?
Oui. En réalité, faut pas, si pour faire du social, il faut faire de l'économique d'abord. L'argent que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas le dépenser. Si vous voyez les dépenses de santé, si vous voyez les dépenses dans l'éducation, si vous voyez les dépenses dans l'eau, l'assainissement, c'est parce que l'argent, les ressources existent. Donc il faut que l'économie croisse. Il faut que la production augmente. Mais je voudrais revenir à la structure de notre économie, ça a été évoqué un peu plus tôt. Vous voyez, nous avons 40% de notre économie qui est du secteur primaire. Et 75% de la population vit dans ces zones rurales. Le secteur primaire, c'est le développement rural, l'agriculture avec un grand A, l'élevage, la pêche, etc., sylviculture, pisciculture. Et le secteur secondaire, qui est le secteur industriel, vous avez 20% environ. Mais si vous regardez à l'intérieur de ces 20%, vous avez 11% qui concernent les industries extractives, c'est-à-dire l'or, principalement, et vous avez 9% pour le secteur manufacturier. Donc, en réalité, notre secteur industriel réel n'est que de 9%. C'est trop peu. Et le secteur tertiaire qui concerne les services, M. Bougourou l'a dit, les télécommunications, mais ça génère des ressources extraordinaires. Je suis un peu de ce secteur parce que j'ai supervisé ce secteur pendant de nombreuses années, mais personne ne peut vous dire quel est le chiffre d'affaires de ces compagnies de télécom. Parce que les appels rentrants et les appels sortants, personne ne connaît la quantité. Nous avons un organe de régulation, mais qui ne sert à rien, pratiquement.
Il y a un déficit de contrôle par rapport à ce
mais absolument, mais c'est ce problème qui s'est posé au Niger quand une certaine compagnie a fermé bagages et elle est partie à cause d'un redressement fiscal. Ces compagnies sont au déclaratif au niveau des impôts, au niveau des recettes fiscales. Ce n'est pas normal. Dans le cadre de la mobilisation de nos ressources, de nos recettes internes, elles doivent payer leur dû. Ce qu'elles produisent ici, sur leur chiffre d'affaires ici, elles doivent payer. Je voudrais faire une petite rectification par rapport au programme d'ajustement structurel, parce que j'ai grandi un peu avec cela. Il y a un ancien président africain qui s'appelle John Gary Rawlings, qui a été l'un des premiers à conduire les programmes d'ajustement structurel au Ghana.
L'ancien président ghanéen, oui, justement.
Lors de son second retour, c'est lui qui a fait des réformes structurelles, conjoncturelles et structurelles au Ghana, notamment dans le cadre du programme d'ajustement structurel. Comment se porte le Ghana aujourd'hui? Assez bien. Mieux que la plupart de nos pays.
Absolument.
Bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un programme d'ajustement structurel d'abord? L'ajustement structurel, c'est quand ça arrive, généralement, quand vous avez un déficit de la balance des paiements. C'est-à-dire lorsque vous achetez plus à l'extérieur que vous ne vendez à l'extérieur. Quand vous achetez à l'extérieur, vous donnez votre argent, vous vous appauvrissez. Mais quand vous vendez à l'extérieur, vous vous enrichissez parce que les gens viennent acheter chez vous. Et généralement, dans la plupart de nos pays, qu'est-ce qui se passait à l'époque ? Il y avait un déficit budgétaire d'abord. Ça veut dire que les dépenses étaient au-delà des recettes. Quand les dépenses sont au-delà des recettes, vous avez un déficit budgétaire. Et qu'est-ce qui se passe ? Ou bien vous empruntez à l'extérieur, ou vous diminuez les dépenses. Mais lorsque vous avez un déficit budgétaire, c'est-à-dire que vos dépenses sont au-delà de vos recettes, et en même temps que vous avez un déficit de la balance des paiements, vous avez ce qu'on appelle un double déficit. Et généralement, aucun pays au monde n'a fait un ajustement structurel sans avoir fait appel aux institutions de Bretton Woods. C'est le pays qui écrit et qui demande. Nous avons des problèmes de trésorerie, nous n'arrivons pas à faire les salaires, nous n'avons pas assez d'argent.
Oui, mais est-ce que
vous... Venez nous aider à redresser notre pays. Et généralement, qu'est-ce qu'on
dit? Est-ce que vous partagez l'idée selon laquelle ces politiques-là ont quand même mis à mal l'économie
du Mali, par exemple? Je suis en train de vous expliquer ce que j'en sais, parce que j'ai entendu ça, j'ai entendu même d'éminentes personnalités le dire, mais c'est le moment de clarifier. Donc, quand vous faites face à des problèmes de trésorerie, vous appelez un organisme comme le FMI qui fait face, qui vous aide à faire face à votre déficit de la balance des paiements. C'est-à-dire le FMI met des ressources à votre disposition, mais en vous demandant de faire des réformes. Par exemple, en diminuant vos dépenses. Mais c'est vous qui le faites. Si vous ne les appelez pas, ils ne vont jamais venir. Mais les gens occupent de dire ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi dans les années 80? Mais il y avait des dépenses superflues. Les gens géraient mal les sociétés d'État. Les partis uniques étaient financés sur les budgets d'État, mais personne n'a entendu dire qu'on a diminué les recettes d'un parti unique.
Oui, d'accord, on tend vraiment vers la fin. C'est assez intéressant, ces explications. Alors, M. Traoré, qu'est-ce que l'État doit faire pour que ces inégalités-là puissent être un peu réduites?
Merci. Je pense, compte tenu du peu de temps qu'il nous reste, il est important de s'inscrire dans les réflexions d'envergure au niveau international. Je pense que la réduction de la pauvreté et des inégalités à l'horizon 2030 est un objectif majeur qui a été assigné à tous les pays, aux 90 États membres de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et chaque pays, en tout cas dont le nôtre quand même, s'est porté garant de cette réforme-là et des initiatives qui sont derrière. Il est important que les décideurs politiques regardent le phénomène en face, qu'ils acceptent de poser le problème et de prendre des politiques efficientes. Voilà.
Merci beaucoup. Merci. Alors, M. Bougoudou, qu'est-ce que l'État doit faire concrètement?
Pour moi, il y a deux pistes de réflexion possibles. Une première piste, c'est l'ODD 10. Quand vous regardez un peu dans le cadre des ODD, les objectifs du développement durable, l'ODD 10 dit de réduire les inégalités. Donc, à travers ce prisme-là, il est demandé d'avoir une plus rapide croissance du revenu des 40% des plus pauvres. Ça, c'est un angle sur lequel on peut regarder. Il y a aussi l'élaboration de politiques de lutte contre les inégalités. Cela, vous pouvez le faire à travers plusieurs choses. Vous avez, par exemple, le financement des services d'éducation, de santé, de protection sociale. Vous pouvez adopter des politiques de protection sociale universelle. Il est possible d'instaurer un système fiscal progressif. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les inégalités se voient également dans le paiement des impôts. Les plus riches payent moins que les plus pauvres.
C'est bien noté.
Et donc, il est important de faire un système progressif de paiement d'impôts qui serait plus basé sur le revenu.
Merci. C'est juste là ça qui met justement fin à cette émission qui portait sur les inégalités socio-économiques au Mali. Nous étions avec Kadari Traoré, il est le directeur général du Centre d'études pour le développement en Afrique, CEDA, Boubacar Bougoudogo, il est chercheur au GRUT, groupe de recherche en économie appliquée et théorique, et Modibo Mahomakalou, il est économiste. À la régie vidéo, il y avait Nouhoum Djiré, à la mise en onde Salim Djouara, à la coordination Issa Fakaba Sissoko et à la présentation Ibrahim Aran Diallo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour un autre numéro.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dumondi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.